Isabelle Richer qui vient nous visiter. Elle est avec moi tout l'été. Les gens que j'ai croisés m'ont demandé « Avez-vous des nouvelles d'Isabelle? » Tout le monde s'est informé d'Isabelle. Isabelle, est-ce que ça va bien?
Alain, ça va. Dans les circonstances, ça va franchement très bien.
C'est un miracle, quoi.
Ben, je sais pas, je crois pas beaucoup au miracle, mais évidemment, j'ai du mal à parler des circonstances de l'accident, puisque je n'en ai aucun souvenir.
Rien.
Ce qui est une bonne chose. Non, je me souviens de ce matin-là, je me souviens de la route qu'on a empruntée, je me souviens de quelques minutes avant l'accident, mais je me souviens absolument pas de l'accident, ce qui est bien tant mieux. Alors, je peux pas vous en parler, mais c'est vrai que je vais bien et... Tous les gens du personnel médical à qui j'ai dit que j'avais eu des fractures des cervicales, des vertèbres cervicales, C1, C2, pour quiconque connaît ça. C'est au cou. Alors, quand on dit se casser le cou, là, c'est littéralement ça. Et il y a des gens qui me regardaient les yeux écarquillés, là, comme si j'étais un miracle sur deux pattes, parce que, évidemment, les vertèbres entourent la moelle épinière, et la moelle épinière sectionnée, ça veut dire paralysie. Et moi, elle n'a pas été touchée fort heureusement. Alors, c'est la mort, la première conséquence, ou la paralysie?
Pour les vertèbres.
Oui, exactement.
Ça. Et en plus, il y a le traumatisme. Donc, il y a le traumatisme crânien, les vertèbres par la suite, et la fracture du coude.
La fracture du coude, là, oui, c'est ça. À laquelle je m'emploie, sur laquelle je travaille là, pour recouvrir ma souplesse.
Et le traumatisme crânien, est-ce qu'il y a encore des séquelles ou...
La fatigue. Ouais. En fait, c'est bête parce que le traumatisme crânien, c'est la blessure qui paraît le moins. Là, elle paraît par la fatigue qu'elle occasionne. Alors, mais c'est la blessure qui paraît pas, c'est la blessure qui se répare, si vous voulez, le plus lentement parce que c'est par le repos qu'on arrive à la guérir complètement. Alors, quand on est bien, quand la fracture du coude a disparu, quand le collet cervical n'y est plus, on a l'air bien. Mais dans le fond, on a quand même subi un traumatisme crânien. C'est ça qu'il ne faudra pas que j'oublie moi-même et que je me précipite trop vite. Parce que c'est vrai qu'on a l'air bien. Hein? J'ai retrouvé ma vivacité. J'ai retrouvé ma même rapidité. J'ai retrouvé mon humour. Mais il faut faire attention. La blessure fondamentale et réelle, c'est le traumatisme crânien.
Ouais. Est-ce que on vous a dit... je pense qu'on vous a dit aussi que vous voyez double actuellement.
Oui,
c'est un classique pour des gens qui souffrent d'un traumatisme comme celui-là.
Oui, c'est un nerf intracrânien qui est atteint, là, qui est tordu ou étiré.
Ça va se placer.
Mais figurez-vous, mais ça c'est une chose que j'ai appris, c'est que les nerfs qui sont abîmés repoussent à raison d'un millimètre par jour. Alors, je ne sais pas combien de millimètres fait ce nerf qui a été atteint, mais déjà, je vois une amélioration. Et ça fait presque 2 mois, là, le traumatisme. Alors, éventuellement, je retrouverai ma vue parfaite.
Alors, là, vous marchez.
Oui.
Vous pouvez lire?
Je lis un peu, difficilement à cause de mon problème de vision, mais oui, je lis. Je ferme un œil, quoi. Je trouve des trucs, là.
Est-ce qu'il y a encore des souffrances physiques?
Non, j'ai pas mal. J'ai mal au cou, j'ai mal aux épaules. C'est toutes sortes de douleurs un peu parallèles parce que j'ai le collet cervical qui est sur le plan postural, c'est pas tout à fait normal d'avoir ça, puis je le lis 24 heures sur 24. Alors, c'est pas très agréable.
Donc, ça va relativement bien dans les circonstances.
On peut dire ça comme ça.
Et les circonstances, on parlait d'un miracle tantôt. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'au départ, le pronostic était très mauvais, vous avez été dans le coma. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes consciente de ça? Vous avez frôlé la mort d'une certaine façon.
Ben oui, mais ça m'a pris beaucoup de temps avant de le comprendre. Parce que ça m'a pris bien du temps avant de réaliser que j'étais à l'hôpital et que mon état était grave. Et ensuite, en parlant avec ma sœur, j'ai une fracture du coude, je sais pas quoi, j'ai un collet cervical. Je me dis, mais tu te rends pas compte, t'as vraiment failli mourir. Ah bon? Mais c'est au fur et à mesure que j'ai réalisé à quel point j'ai été bénie dans ma malchance. Parce que oui, l'accident, c'est vrai, c'est une malchance, c'est malheureux. Mais aujourd'hui, je pourrais être tétraplégique.
En plus.
Oui, alors ça pourrait être bien, bien plus grave, si on peut dire. Je pourrais avoir des problèmes cognitifs. Enfin, qui sait, peut-être que j'en ai et que je ne les ai pas encore découverts, mais ça pourrait être bien pire.
Seulement se replacer à l'hôpital, quand vous vous êtes réveillé,
oui.
La première fois, vous avez été consciente de ce qui s'est passé. c'était quoi? C'était qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette affaire-là?
Est-ce que... Il paraît que... Alors, c'est amusant que vous me posiez la question, Alain, parce que mon chum me disait, que mon chum qui a été à mes côtés sans arrêt, me dit...
Qui était avec vous lors de l'accident.
Absolument, qui me précédait et qui a failli se faire foncer dedans lui-même et qui s'est dit, oh non, c'est elle qui va se faire ramasser. Et comme de fait, il m'a entendu crier et il a entendu l'impact de mon vélo sur le sol. Alors, mais lui, il a échappé, pas moi. Alors, mon chum qui était avec moi, donc dans la chambre d'hôpital, me dit, tu m'as demandé, je ne sais pas combien de fois, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je n'ai aucun souvenir de lui avoir posé la question. Alors, j'aimerais bien avoir la vision très romantique de vous dire, oui, ça y est, j'ai ouvert les yeux à l'hôpital, j'ai vu mes parents, j'ai vu mon amoureux, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et je leur ai posé la question. Pas du tout. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce que c'est mon premier souvenir de l'hôpital. C'est une espèce de magma quand on est... et dans le coma, et ensuite aux soins intensifs, et sédatisé, on prend toutes sortes de médicaments. Alors, ça crée une sorte de semi-brume dans laquelle on reste pendant des jours. Alors, bien sûr, je me souviens d'avoir été à l'hôpital. Je me souviens d'avoir été dans ma chambre. Je me souviens des soins que mon chum m'apportait, puis combien il me trimbalait de corridors en terrasse, parce que j'étais au Montreal General. Alors, mais je n'ai pas un moment précis à vous raconter.
Mais est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes rendu compte de la gravité de la situation?
Oui, oui. Il y a un moment où je me suis dit, oh, que j'ai frôlé le désastre. Et puis, si ça se trouve, je ne serais même pas ici pour en parler. Là.
Ouais.
Et c'est là où tu dis, oh, que ça tient à peu de choses. Hein?
Quand on raconte que quand on est dans le coma, on entend des choses. Est-ce que vous avez un souvenir de ça aussi ou c'est encore dans la brume?
Aucun souvenir.
Rien.
Et j'ai un ami cycliste qui a subi un traumatisme crânien bien plus grave que le mien il y a plusieurs années. Il lui aussi était dans, mais lui, il était dans le coma pendant des jours et des jours. Et on lui disait ça après, quand il s'est réveillé. Mais tu te rappelles pas quand on t'a fait ci, quand on t'a dit ça, quand on te chantait des chansons. Il n'en gardait aucun souvenir. Et j'avais du mal à y croire, mais aujourd'hui, je vous le confirme, aucun souvenir.
Revenons sur l'accident. Donc, vous êtes avec votre chum, il vous précède, vous êtes dans sa roue, hein, d'une certaine façon, comme on dit, donc vous ne voyez pas ce qui se passe en avant. Il y a une camionnette qui dépasse un tracteur qui vous frappe.
Oui.
Quand vous regardez ça aussi à rebours, hein, on parle d'un accident. Est-ce que c'est vraiment un accident ou c'est pas plutôt une négligence, une imprudence?
Je ne peux pas qualifier ce que le chauffeur de la camionnette a fait, puisque je n'en ai aucun souvenir. Je ne me souviens même pas de la manœuvre
qu'il
a faite.
Quand on vous le raconte...
Quand on me le raconte, évidemment, ça dépend qui me le raconte. Bon, évidemment, il n'y a que mon chum pour en témoigner. Nous, ce que je veux dire, parce qu'il y a des gens qui vont penser qu'on était imprudents, ce qui m'importe de dire, c'est qu'on se comportait comme de parfaits cyclistes, c'est-à-dire qu'on roulait en bordure de la route, à la file indienne. Il n'y a pas de grand accotement là, dans le rang qu'on empruntait, la Grande Caroline, mais on était en bordure de la route. Alors, ce que le chauffeur a fait... Est-ce qu'il a été distrait? Est-ce qu'il nous a vus? Je ne peux pas le dire. Alors, pour moi, ça demeure un accident qu'on me démontre le contraire, que ce n'en était pas un. En tout cas, c'était pas volontaire. J'ai du mal à croire. Mais c'était très certainement une distraction. Il ne nous a pas vus, c'est manifeste. Là, mais...
Puis, comme cycliste, est-ce que ça amène de la colère? Est-ce que vous êtes en colère de ce qui s'est passé?
Je n'ai pas encore sombré dans ces sentiments-là, c'est-à-dire la colère ou le chagrin. Je disais à mes amis, j'ai pas le temps, là, je suis trop occupée, je fais de la physio, je fais ci, je fais ça, j'ai pas le temps d'être en maudit. Mais c'est vrai que quand j'y pense, je suis en colère parce que ça m'arrache une année de ma vie, littéralement. Puis je fais des traitements, là, je passe mon temps en rendez-vous, puis chez les médecins.
Ben, c'est dur, ouais.
C'est pas ma vie, hein. Mais c'est correct, là, je ne souffre pas, au contraire, j'en bénéficie. Mais c'est pas comme ça que j'envisage ma vie. Mais c'est comme ça qu'elle se passe présentement, de rendez-vous en rendez-vous, de séance de physio en séance de physio. Alors, c'est pas comme ça que je voyais la fin de mon été et le début de mon automne 2015.
Ben oui, parce qu'on vous attendait à enquête, un nouveau poste, une fraction de seconde, une imprudence minimalement, quelqu'un qui dépasse, qui est cycliste devant.
Oui.
C'est ça qui vous...
Bien, ça me met en rogne parce que c'est vrai, comme vous dites, c'est une fraction de seconde, hein, c'est un claquement de doigts. Alors oui, il en fallait de peu pour que le tapis nous soit tiré sous les pieds et c'est ça qui est arrivé. Mais au moins, j'y suis. Alors, bon, ça reporte un peu mes projets de l'automne, mais ça ne fait que les reporter, Alain. Alors.
Quand j'ai été vous visiter à l'Institut de réadaptation, oui. C'était quoi, vers fin juillet, mi-juillet, fin juillet, vous aviez un T-shirt Tour de France.
Oui.
Est-ce que c'était un message?
Non,
c'était c'est... dire, regarde, moi, le vélo, malgré ce qui s'est passé, je vais en faire un jour.
Mais c'est ça, à peu près tous mes T-shirts portent des histoires, des inscriptions de vélo, puis tout ça, Tour de France, tous ces T-shirts-là. Peut-être que je l'avais mis exprès pour vous, là, pour votre venue. Mais ça, c'est tous mes amis qui ont voyagé en Europe qui m'en rapportent un par année. Alors, j'en avais apporté une pile à l'Institut de réadaptation.
C'est une façon d'un peu de narguer le destin? Ou...
Mais c'est très certain que je ne vois que mon prochain voyage à vélo. Je ne peux pas imaginer ma vie sans vélo. Alors, c'est faux. Je ne mettrai pas une croix sur le vélo. Écoutez, peut-être que je vais trembler de tous mes membres et que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps quand je vais enfourcher mon vélo pour la première fois l'an prochain. Mais la chose qui est certaine, c'est que j'en referai.
Et la sécurité à vélo au Québec, quand vous regardez ça, vous étiez sur un rang, il n'y avait pas d'accotement, je pense.
Non, c'est ça. Alors,
quand vous regardez ça globalement, là, comme citoyenne, cycliste, automobiliste aussi, journaliste, ça vous inspire quoi?
Bien, c'est sûr qu'on est très interpellés par la sécurité à vélo. Ça fait 15 ans que je roule, Alain. J'ai commencé en 2000. Et il ne m'est jamais rien arrivé. Alors, je roule prudemment. C'est vrai que je suis une cycliste, quand je dis une cycliste prudente, je suis une cycliste peureuse. J'ai toujours peur qu'il m'arrive quelque chose, alors je fais doublement attention.
Avez-vous l'impression que les cyclistes sont respectés?
Ben,
en gros?
Je suis pas sûre que le partage de la route est la priorité numéro un pour les automobilistes. On voit qu'il y a encore beaucoup de comportements semi-agressifs, là. Alors oui, je suis pour un partage, je suis pour ce message-là, mais c'est certainement pas mon accident qui en témoigne, là. Je veux dire, peut-être que le monsieur m'a pas vu, peut-être qu'il regarde ailleurs, j'en sais rien, je connais pas les circonstances de l'accident. Mais oui, je plaiderai toujours en faveur d'une tolérance, d'une grande tolérance, et elle va dans les deux sens.
Et elle va dans les deux sens,
oui, je pense
ça, c'est
que les cyclistes doivent être, pas seulement tolérants, mais allumés, là. Qui garde l'œil ouvert et qui soit prudent, qui soit à la limite peureux comme moi. Comme ça, on appréhende ce que les autres vont faire sur la route.
Vous avez vu ce qui s'est passé en fin de semaine,
un décès,
ce matin aussi?
Ben oui, je deviens extrêmement sensible aux nouvelles de ce type-là, naturellement, puisque je me reconnais dans chacun des accidents de vélo.
Et sans casque, vous ne seriez pas là?
Non, comme dit ma sœur, sans casque, tu serais une donneuse d'organes. Alors, on m'aurait maintenu en vie, on aurait donné tout ce qui est bon dans mon organisme, quand même pas pire en santé et pas pire en forme, ce qui, ma foi, je continue de le croire, a peut-être aidé à ma récupération. Ça, c'est pas inutile de se tenir en forme, Alain, malgré notre grand âge.
Non. Alors, Isabelle Richer, merci de cette entrevue.
Ça m'a fait plaisir.
Tolère pas mal plus en forme que
quand t'es venu me voir.
Ouais.
Puis, je le suis.
Donc, on t'attend. Patiemment, tendrement, il n'y a pas de presse pour revenir en ondes. Tout le monde va garder ta place, puis on est très content que tu sois là.
Mais ça me fait plaisir. Merci,
Bye.
À bientôt.